6h02, vendredi 26 février. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Matin froid, autour de moins 13 degrés actuellement avec un ciel dégagé. Mais c'est une belle journée, c'est un très, très beau vendredi, il faut en profiter. Avec du soleil, moins 4. En soirée, quelques nuages, autour de moins 8. Et demain, samedi, ben là, ça se gâte avec des nuages dès le matin. Il y aura un peu de neige, pas beaucoup. Là, on parle durant toute la journée de 2 à 4 cm. C'est que demain, il va faire 5 degrés, donc nettement au-dessus de zéro, ce qui fait que cette neige pourrait facilement devenir de la pluie intermittente, surtout durant l'après-midi, avec des vents jusqu'à 40 km/h. En soirée, passage nuageux, minimum moins 4 pour la nuit. Et dimanche, ben, on prévoit de la pluie intermittente avec un maximum de 3 degrés. En résumé, ce n'est pas un très, très beau week-end. Température confortable, mais malheureusement, du temps couvert et des précipitations. Bon, le fameux passeport de vaccination. Alors, c'est une idée qui, évidemment, a été reprise par Québec. On est à l'étape de la réflexion. Ça existe dans plusieurs pays. Je disais ce matin, pour vous donner un exemple, en Israël, où on est très avancé dans la vaccination, première dose, deuxième dose, ils ont ce qu'on appelle mis en place un système de badge. Une fameuse badge verte qui est utilisée, par exemple, pour permettre aux gens d'aller à la piscine, dans les musées, les bibliothèques, les hôtels, les parcs d'attractions. Ça permet d'assister à des événements sportifs, culturels. Vous pouvez aller vous entraîner avec cette preuve de vaccination, donc dans les gyms. Les centres commerciaux qui sont ouverts, ce n'est pas demandé. Donc, il n'y a pas cette exigence. Mais dès qu'il y a des rassemblements pendant une période de temps, puis possible contact, alors on va avoir une preuve de vaccination. Québec, hier, le ministre Christian Dubé disait on pourrait avoir une espèce de code dans notre téléphone intelligent qui viendrait prouver qu'on a été vacciné et qu'on fait partie de la cohorte des Québécois qui a été immunisé. Remarquez que ce n'est pas tout de suite, compte tenu d'abord qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont été vaccinés. Un. Deux, que c'est un processus qui va prendre encore plusieurs mois. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Bien, c'est pour éviter, évidemment, que des gens qui ne sont pas vaccinés aient accès à des lieux comme des gyms, alors que ceux et celles qui auront été vaccinés, bien, pourront aller s'entraîner. Il y aura, comme c'est le cas en Israël, probablement encore un certain nombre de mesures sanitaires, mais au moins, ça permet une reprise de l'activité. Alors, là, tout de suite, vous avez des gens qui, hier, ont dit, un, pas tout le monde qui a un téléphone intelligent. Alors, est-ce qu'on va prévoir deux ou trois supports, là, de modèles de passeport? Deuxièmement, on parle aussi de ce passeport pour l'industrie du voyage. Donc, faire la preuve qu'on est vacciné quand on veut voyager, quand vraiment ça va repartir. Et plusieurs y voient, et pas que des complotistes, là, une forme d'intrusion dans la vie privée. Une forme également de violation de droits et que l'État vient se mêler de nos affaires. Un, on se fait vacciner, mais deux, si tu n'es pas vacciné, ça veut dire que tu vois certaines activités restreintes. Puis il y a tout le côté de voir le gouvernement qui a le nez dans ton téléphone grâce au passeport de vaccination. Puis il serait quoi capable de savoir si tu es allé au resto, à quelle heure. Puis en même temps, on va être très franc aussi ce matin, là. La vie privée n'existe pratiquement plus. Et on est responsable de ça parce que on partage tellement de choses et on ouvre la porte à des firmes comme Facebook pour faire, parce qu'on ne paye pas pour Facebook, là, mais pour faire les profils des gens. On a parlé souvent, là. Tu fais une recherche et après ça, on te soumet de la pub à répétition sur des produits directement ou en périphérie de ce que tu cherchais. Alors, est-ce que Big Brother existe? Est-ce que l'État peut mettre le nez dans tes affaires? Beaucoup, beaucoup, à beaucoup d'occasions. Alors, va être intéressant de voir maintenant, si jamais on va de l'avant, puis moi, je pense que ça va arriver, là, puis il y a plusieurs pays qui le font, et c'est une façon, donc, d'amener les gens à se faire vacciner. En parlant de l'opération vaccination, il y a eu quelques petits problèmes hier, notamment des problèmes sur les circuits téléphoniques, mais quand même, il y a plus de 100 000 Québécois qui sont allés chercher un rendez-vous. Et on peut dire au moins que de ce côté-là, ça fonctionne. Les gens de 85 ans et plus, il y a eu des problèmes. Beaucoup d'auditeurs m'ont écrit là, pour ce qui est de l'aidant naturel, où là, c'était pas possible de l'inscrire. Je sais qu'à Laval, il y a des gens qui sont allés. L'aidant naturel qui avait 70 ans n'a pas pu se faire vacciner, ou en tout cas, ça a été l'objet de négociations. Bon, quelques ratés de départ, compte tenu du volume d'appels, je pense que c'était prévisible. Et l'autre point positif, c'est que les doses de Pfizer et de Moderna vont donc arriver telles que prévues, puis les quantités sont importantes, là. Ça veut dire que c'est du 100 000 doses de Pfizer par semaine, puis au total, sur 4 semaines, là, c'est un peu moins pour ce qui est de Moderna. Et on va, beaucoup de gens me posent aussi la question, administrer la deuxième dose à partir du 15 mars. On va refaire la tournée des centres de soins de longue durée et également les employés du réseau de la santé. Et en parlant de la vaccination, je sais que hier, Dr Marchand, qui était avec nous, a suscité quand même pas mal de réactions. Moi-même, j'étais assez étonné de son propos. C'est un microbiologiste qui, lui, veut attendre d'autres résultats d'études avant de se faire vacciner. Il a pris, il sait qu'il n'était pas contre les vaccins, mais lui, il n'est pas pressé. Dans son hôpital, qui est l'Institut de cardiologie, parlait d'un taux de refus d'à peu près 23 % des gens. Ce matin, dans The Gazette, environ, nous dit-on que 76 % des gens ont été vaccinés dans le réseau de la santé, ce qui correspond en gros là, à ce que je vous donnais comme référence, si on veut. Et c'est une forte augmentation par rapport aux gens qui se font vacciner contre la grippe, par exemple. Et quand on voit, puis c'est un peu le message, puis je sais qu'il y a des employés du réseau, c'est toujours dur à comprendre pourquoi, là, parce que quand même, t'es exposé, tu veux avoir des équipements de protection, puis c'est normal, pour travailler, pour minimiser le risque. Et le vaccin. Puis là, il y a des gens qui ne sont pas certains, puis qui attendent de voir, puis bon. Alors, on va en reparler avec le Dr Weiss ce matin, mais un des constats que ceux qui ont mené l'étude font, c'est quand tu vois quelqu'un de ton équipe de travail se faire vacciner, puis qu'il n'y a pas d'effet secondaire, là, qu'il n'y a pas de symptômes néfastes, ben c'est un stimulant quand même important. Alors, c'est beaucoup d'employés. Puis la vaccination, je le rappelle, n'est pas obligatoire au Québec, mais elle est fortement suggérée. Et puis, je rappelle que pour la semaine de relâche, à tout le moins, peut-être que ça va se poursuivre après, les cinémas rouvrent, presque tous, avec des restrictions. Deuxièmement, les piscines intérieures vont rouvrir, encore là, activité solo ou encore duo, ou ce qu'on appelle la bulle. Même chose pour les patinoires à l'intérieur. Donc, on veut permettre, donc avec ces plages, une reprise des activités sportives. Puis dans la presse, ce matin, vous avez beaucoup d'entraîneurs, d'athlètes, de parents, de gens de tous les sports possibles qui disent que les jeunes ont besoin de faire leur sport. Puis combien de fois je vous ai parlé de ça, puis de messages que je reçois, là. Et ils veulent pouvoir au moins s'entraîner, pratiquer leur sport une fois par semaine. Et là, vous avez plein de témoignages. Puis il y a une manifestation qui est prévue le 7 mars devant le Parlement à Québec en disant « Redonnez-nous nos patinoires, nos gyms, les endroits où on peut s'entraîner puis pratiquer notre sport. » Le titre, c'est tout simplement « On a besoin d'air ». Québec a confirmé hier ce qu'on savait pour ce qui est du retour en classe après la relâche, donc pour le primaire, il y aura port du masque obligatoire à tout moment, dans tous les lieux de l'école puis dans le transport scolaire, sauf pour les enfants de maternelle et de prématernelle. Mais, et en plus, Québec va fournir le masque. Et je le disais hier, ça suscite là aussi toutes sortes de réactions. Il y a des parents qui ne sont pas d'accord, il y a des parents qui pensent que ce n'est pas une bonne affaire, puis il y a des parents qui demandent à être convaincus. Mais c'est quand même ça qui est déterminé. Puis je vous le dis depuis quand même un bout de temps, l'après-relâche, avec la présence des variants, puis on l'a vu hier encore, là, le nombre de cas sous étude ou confirmés de variants, ça augmente beaucoup, là. Et notamment dans les écoles. Et c'est pour ça que la santé publique dit, ben, faut que les enfants portent un masque. Et on peut refaire tout le débat là, sur l'école. Ça aurait dû peut-être être fait depuis longtemps. Ça fait aussi qu'on doit se rappeler le traînage de pied dans la gestion de la qualité de l'air dans les écoles du Québec. Là, je parle même pas de la négligence crasse historique parce qu'on a abandonné les infrastructures scolaires au Québec, n'ont pas mis d'argent. T'sais, on a beau se gargariser, l'éducation, c'est important, mais ça prend des aménagements qui ont de l'allure. Puis ça, c'est tellement long, c'est tellement long. Analyser la qualité de l'air, puis faire des recommandations. Bref, il ne faudra pas oublier cet aspect-là non plus après la crise, mais on va donc l'imposer à l'école. On va en parler aussi avec Dr. Jean-François Chicoine ce matin, qui est pédiatre, mais il y a beaucoup de profs qui disent que c'est un problème entre les deux oreilles des parents. La plupart des enfants n'ont pas de problème avec ça. Là où ça se passe, oui, c'est pas agréable au début, puis c'est une question sans doute d'ajustement, mais c'est à se demander si c'est pas davantage des parents qui n'aiment pas ça, qui arrivent à se convaincre que leur enfant n'est pas bien là-dedans ou arrivent à convaincre leur enfant qu'il n'est pas bien là-dedans. Dans quel sens ça va, c'est peut-être difficile à établir. Dans les autres nouvelles ce matin, parlons de la Caisse de dépôt. Caisse de dépôt qui a un rendement de 7,7 pour l'année 2020, l'année de la pandémie, puis avec tous les effets qu'on a pu voir. Les placements privés ont été très payants pour la Caisse, mais la Caisse, avec ce rendement-là, est en deçà du rendement médian de 2020, qui est de 9,3, et donc même en bas de ce qu'on pourrait appeler l'indice de référence pour des portefeuilles comparables. C'est quand même immense, la Caisse de dépôt, pas besoin de faire un dessin là-dessus. Et son président, Charles Aymon, qui sera avec nous, souhaite également, pour les prochaines années en tout cas, diversifier les investissements. Et lui est extrêmement confiant de l'avenir. Je regardais les commentateurs ce matin, les analystes, qui disent en gros la Caisse est un revenu ou enfin un rendement correct. On n'a pas de quoi se péter les bretelles. On bénéficie de certains avantages, notamment de la baisse des taux d'intérêt. Et ce qui vient traduire pour plusieurs... une gestion conservatrice. Puis là, il y a toutes sortes d'étiquettes qu'on peut mettre à la Caisse de dépôt, là. C'est le bas de laine des Québécois. C'est normal qu'on soit prudent. Mais en même temps, qui dit prudence dit des rendements parfois qui sont un peu plus pépères. Alors, est-ce qu'on veut que la Caisse devienne, disons, plus agressive, soit tentée d'investir? Ils sont à peu près absents, dit-on, des titres techno qui ont tellement explosé. Parce qu'on joue un peu, mais pas tant que ça, là, dans les Apple, puis dans les Tesla, puis on joue avec beaucoup de prudence. Et on va parler avec le président ce matin, puis le dossier du REM, en tout cas dans l'esprit de la Caisse, qui est le joueur, là, qui est le promoteur, c'est assez réglé, là, la structure aérienne sur René Lévesque. C'est ça qui est prévu, c'est ça qui va être construit. Puis là, il y a peut-être des aménagements qui peuvent être faits, là, sur le plan de l'esthétisme et de l'urbanisme, mais disons que c'est assez clair, là. Comme stratégie pour ce qui est de la Caisse de dépôt et de placement. Moi, je vais vous parler de deux, trois scandales qui sont souvent étouffés par les autres nouvelles. D'abord, parlons du cas de cet individu. C'est sorti la semaine dernière, puis on n'a pas eu le temps vraiment d'en parler. Un psychoéducateur retraité qui s'est acheté, puis là, il y a toutes sortes de restrictions là, à cause des jugements qui ont été rendus. Il s'est acheté une petite fille de 8 ans pour en faire son esclave sexuel. Le Journal de Montréal revient là-dessus ce matin. Le gars est envoyé à Pinel parce qu'il faut l'évaluer. Est-il un délinquant dangereux? Il s'appelle Sylvain Villemaire. Il est de Montréal-Nord. Et la petite a été exploitée pendant un minimum de 3 ans. Puis on peut présumer que des monstres comme ça ont fait d'autres victimes dans le passé. Alors, c'est un pédophile qui avait été déclaré coupable à traiter il y a une dizaine de jours, donc d'avoir abusé de cette petite fille-là. Et là, on veut le déclarer délinquant dangereux ou à contrôler, ce qui pourrait l'amener à être en prison pour une durée, semble-t-il, indéterminée. Il aurait acheté la petite de la mère. C'est la mère qui a vendu l'enfant, d'après ce qu'on comprend. Et lui, on l'a trouvé également de la pornographie juvénile. Bref, là, c'est un vrai pédo, OK? Pas de remords, trouve ça normal, c'est quoi votre problème? Puis la petite était heureuse, puis j'y donnais de l'amour. Puis tu sais, c'est toujours le même discours classique des pédos. Alors, on verra quelle sera l'évaluation faite de cet être dégueulasse. Mais je rappelle quand même que d'autres complices adultes. Et on a expliqué devant le juge son attitude qui pouvait passer, tu comprends, du gars ben fin à quelqu'un qui dominait totalement, c'est bien sûr une pauvre petite fille comme ça. Ça, c'est le premier cas. T'sais, ça passe un peu sous silence, mais c'est un être profondément dégueulasse et qui se justifie. Là, on n'est pas dans une période, je regrette, là. C'est le problème de la civilisation d'aujourd'hui de condamner des relations entre quelqu'un de mature puis quelqu'un de jeune. Ça fait du bien, puis on se fait du bien. Puis c'est quoi votre maudit problème? Les êtres qui portent des jugements moraux sur ce qu'on fait. Alors, c'est dans le Journal de Montréal que vous retrouvez ça. Ensuite, il y a l'histoire du juge Girouard. Michel Girouard est un juge qui a été donc nommé, mais qui était un criminaliste avant. Puis il y a des images vidéo, acheté de la cocaïne à un client. Il n'était pas encore juge. Là, les images sont apparues, il y a eu quand même des enquêtes, il n'a pas été accusé. Puis là, il s'est retrouvé nommé juge dans ce contexte-là, d'enquête, par-dessus enquête, par le collège, le conseil de la magistrature, pardon, et on a étiré les procédures. En résumé, Girouard a été payé 300 000 $ par année. Certains disent qu'il n'a pas siégé, d'autres me disent qu'il a présidé un peu, mais pas vraiment. Et toutes ces années payées à 300 000, c'était pour se défendre, parce qu'elle en appelle, contestait. Mettons qu'il connaît la machine. Et ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême qui a dit « on ne veut même pas l'entendre ». Et le ministre de la Justice au fédéral, Lametti, a dit « on va le destituer ». Et il lui a pas attendu, puis a annoncé qu'il quittait. Mais il ne quitte pas les mains vides. Comme Julie Payette, qui ne part pas de son plein gré après une brillante carrière, là, les deux partent dans des contextes différents, mais avec un point commun, c'est-à-dire on vous fout à la porte, avec des pensions, dans le cas du juge, à vie, de 155 000 $ par année. Il y a quelque chose de profondément indécent. Ça se peut pas qu'on ne révise pas les plans de pension. Que quelqu'un récupère les sommes investies, c'est une chose, mais quand tu es viré, destitué, ou que tu étires les procédures, puis finalement tu démissionnes, il me semble qu'il y a comme un minimum. Puis l'autre cas, on parlait d'abus tantôt, vous avez vu aux États-Unis, le cas de l'entraîneur qui s'appelle John Gether, qui a été accusé de trafic d'êtres humains. Quelqu'un qui avait une espèce de camp avec l'équipe olympique de gymnastique. Et ça nous ramène à l'affaire du docteur Nassar, qui était le médecin qui a abusé pendant des années et des années d'une plusieurs gymnastes, des jeunes filles, qui a été condamné à des dizaines d'années de prison. Et Gether, lui, était l'entraîneur de l'équipe olympique. Et ça a pris toute une enquête. Et finalement, donc, on a décidé hier de l'accuser. Quand c'est tombé, il s'est enlevé la vie. Alors, on a à peine déposé des accusations que l'homme en question s'est suicidé. Puis vous avez cette crise qui secoue les forces armées canadiennes, les chefs d'état-major qui font les deux l'objet d'enquête pour allégation d'inconduite sexuelle. Vance, qui est parti, Jonathan Vance, et celui qui l'a remplacé, Art MacDonald. Ce que rapporte la CBC, ce sont donc des allégations de nature sexuelle concernant le boss des forces armées. Et ça remonte à il y a à peu près une dizaine d'années, dit-on. Mais ça prouve encore une fois, malgré le rapport de la juge Deschamps, qui dit dans une entrevue qu'elle est estomaquée, de se rendre compte que la culture ne change pas vraiment au sein des Forces armées canadiennes, malgré le discours officiel, que c'est très difficile pour des femmes de faire une carrière sans se faire harceler, sans être importunées, insultées, être traitées grossièrement par des collègues, même si officiellement, toujours pareil, le discours est très positif, ben, disons que dans la pratique, c'est assez différent. Il est 6h23, on y va avec la métropolitaine.